Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour moi une joie de pouvoir encore revoir chacun de vos visages. Amen. Je ne l'espérais pas de si tôt, mais Dieu a ses plans.
Amen.
Et véritablement, c'est pourquoi nous avons besoin de nous abandonner entre ses mains.
Amen.
Et que Dieu bénisse richement notre frère Pascal.
Amen.
En tout cas, en toute sincérité, cette année, je ne comptais pas venir ici en Europe. Véritablement. Donc, j'étais venu du Rwanda, où j'étais allé voir les frères. Bon, donc, j'étais là en train de vaquer à mes occupations. Et puis, j'ai un ami qui est à Avignon, qui était venu. Il est français, il était venu en Côte d'Ivoire, même il est allé jusqu'à Bandoukou. Et donc, j'étais avec lui. Et c'est là que j'ai reçu un SMS de mon frère Pascal, et qui a souhaité qu'au mois de juillet, je passe véritablement ici. Et c'était vraiment conduit par Dieu, vous voyez, parce que quand cet ami a été arrivé, il avait quand même souhaité que véritablement je passe là parce qu'il avait certaines choses à me confier. Donc j'avais dit qu'il y a une sœur qui viendrait de la Côte d'Ivoire, donc j'ai dit, mais certainement, la sœur pourra certainement envoyer toutes ces choses-là pour l'Église. Parce que quand il est venu à l'Assemblée et puis il a vu le temple que nous avons bâti. Et notre table de message, il a vu cela. Bon, donc, il a voulu quand même offrir des instruments à l'église. Et c'est le même jour, quand il m'a fait la proposition, c'est le même jour que le frère Pascal a envoyé le SMS. Parce que, après, il s'est avéré que la sœur ne pouvait plus venir parce qu'elle allait faire la demande de visa et elle n'a pas pu obtenir le visa. Vous voyez ? Donc, j'ai vu que certainement Dieu était en train de conduire les choses, mais la possibilité, c'était de pouvoir avoir un rendez-vous pour pouvoir obtenir le visa. Vous savez, venir ici, c'est vraiment comme aller passer un baccalauréat. Les choses ne sont pas assez faciles. Je vais à l'ambassade, on me dit que les rendez-vous sont déjà au mois d'août, le 24 août. Donc, il n'y a pas possibilité pour moi de pouvoir véritablement avoir un rendez-vous avant cette date-là. J'ai remis les choses entre les mains du Seigneur. Et par sa grâce, j'ai pu avoir un rendez-vous. Et je suis au milieu de vous.
Amen.
Vous voyez, que le nom de notre Seigneur soit béni.
Amen.
Donc, c'est vraiment une grande joie de vous revoir, même si je ne suis pas ici pour longtemps, parce que le mercredi, je dois partir. Et puis, la semaine prochaine, on doit aller chez Frère Daouda à La Rochelle. Et puis, l'autre semaine, d'après, on doit aller à Avignon. Donc, le temps est vraiment coincé. Mais je dois, parce que la dernière fois, je n'ai pas pu aller voir mon frère Daouda. Ça me fait vraiment mal au cœur. Bon. On a déjà même appelé la sœur Esther, mais je crois qu'elle dit qu'elle viendrait ici, je crois, dans le courant de cette semaine. La sœur Esther de Blois. J'ai vu ses enfants tout à l'heure. Véritablement, c'est une joie de pouvoir revoir chacun de vous. Et nous vous portons vraiment dans notre cœur. Vous voyez, c'est une consolation de savoir que chacun de nous, nous faisons l'effort de pouvoir nous accrocher à cet évangile, à cette parole que nous avons vraiment reçue de la part du Seigneur. C'est la chose la plus importante que nous avons reçue de la part vraiment de Dieu. Notre frère parlait tout à l'heure, il est parlé de l'évangile de la vérité. Cette parole qui doit certainement s'accomplir avec chacun de nous. La même, exactement, vous considérez attentivement les Saintes Écritures. Quand nous lisons attentivement la parole de Dieu, nous avons pu voir qu'à un moment donné dans la vie d'Abraham, Dieu est allé à la rencontre de cet homme. Et vous avez pu voir durant tout au long de sa vie sur cette terre, ce Dieu a marché au devant de lui. Toutes les difficultés qui se sont véritablement manifestées, Dieu a été avec lui.
Amen.
Et c'est pourquoi le témoignage d'Abraham est consigné dans les Saintes Écritures.
Amen.
Mais si nous nous arrêtons là, ça sera certainement le Dieu d'Abraham.
Amen.
Mais nous pouvons aussi voir, avec la grâce que nous avons, de pouvoir savoir que ce même Dieu-là, c'est de cela qu'il s'agit.
Amen.
Parce que souvent, quand nous sommes là, nous ne voyons pas cela. Mais c'est exactement ce même Dieu-là qui est venu aussi vers nous. Parce qu'il connaît le chemin que nous allons emprunter. Il aura des difficultés. Mais la même manière qu'il a été avec Abraham, il sera aussi avec nous. Et c'est cette assurance que nous avons auprès de lui. C'est pourquoi, marchant, il est important que chaque croyant soit rassuré. Pour savoir que nous ne sommes pas en train d'aller à l'aventure. Pour Abraham, ce n'était pas de l'aventure qu'il était en train de faire. Quand, effectivement, il est aussi apparu à Moïse et que, véritablement, le peuple d'Israël était en train de partir, pour Moïse et pour ceux qui avaient véritablement cru parmi le peuple, ils savaient que ce n'était pas de l'aventure.
Amen. Ils ont trouvé la mer, c'est vrai, la mer était là, Pharaon venait par derrière. Mais ils avaient l'assurance. Moïse savait. Mon frère m'a rappelé ce passage, ça m'a vraiment touché le cœur. Dieu a dit à Moïse, quand il s'est révélé à lui, au niveau du buisson ardent, il a dit, lorsque vous allez sortir, vous viendrez sur cette montagne. Et c'est là que vous allez m'adorer. Mais il y avait la mer. Mais Moïse avait entendu la parole. Elle était précise. Il doit dépasser la mer et aller pour aller adorer sur la montagne. C'est la vérité, mes bien-aimés frères. Donc, la mer ne pouvait pas être un obstacle. Et c'est cette assurance qui reposait en Moïse. Mais tout le monde n'avait pas eu la grâce de comprendre ce qui se passait. C'est ça le problème aujourd'hui. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Et je vous remets les salutations de tous nos bien-aimés qui sont à Bandoukou, les frères d'Abidjan, parce que j'ai passé dans ces derniers temps beaucoup de temps là-bas. Vous voyez, ils me transmettent, ils me chargent de vous transmettre aussi leurs salutations. Il y a notre frère Boadi aussi qui est là-bas, notre frère Kloubali aussi qui est venu. Je l'ai vu tout juste avant que je ne vienne. Vous voyez, ils m'ont tous demandé de vous transmettre véritablement leurs salutations. Vous voyez, que le Dieu Tout-Puissant soutienne véritablement cette œuvre-là et qu'il bénisse chacun de nous et qu'il nous fortifie en réalité. Vous voyez, il est vraiment assez important de pouvoir véritablement comprendre ce que Dieu est en train de faire véritablement dans notre génération. Sans tarder, je crois que nous allons nous tenir debout et nous allons lire une portion des Écritures dans le psaume au chapitre 23, un passage que vous connaissez tous bien. Le psaume chapitre 23, un passage que vous connaissez bien. Nous allons lire quelques versets et puis prier le Seigneur. Il dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Notre frère Pascal va prier le Seigneur.
Précieux Sauveur, oh, frère. Nous nous inclinons devant toi, Père.
Oui, c'est vrai.
Je te dis encore merci. C'est vrai, tu es l'Éternel, notre berger. C'est toi qui nous as connus d'avance, mon Sauveur, et qui es venu à notre rencontre, mon Sauveur. Tu nous as fait sortir, mon Dieu puissant, et tu marches à notre tête, Père, pour nous montrer réellement le chemin, mon Dieu puissant. Il n'y a aucun obstacle, mon Sauveur béni, qui pourrait tenir devant nous, que tu es avec nous. Conduis-nous sur ce sentier de la vérité, sur ce sentier de la justice, Père, et glorifie ton bon nom au milieu de nous, Seigneur. Non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom, Père. Bénis ta parole, mon Sauveur. Bénis le vase que tu vas utiliser, Seigneur, et que ton onction se répande, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la salle, Seigneur. Que chaque cœur, mon Sauveur béni, soit aussi, mon Sauveur béni, soulagé, mon Sauveur béni. Ô Dieu puissant, glorifie encore, Seigneur, ton bon nom au milieu de nous ce matin. Nous croyons que tu nous l'accordes, Père. Tu as dit demander et vous recevrez, Père. Nous te l'avons demandé ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Vous asseoir, s'il vous plaît. Il est vraiment assez important, bien mes frères et sœurs, alors que nous avons la possibilité ce matin de pouvoir lire ces versets-là, de pouvoir certainement ouvrir notre cœur. Parce qu'il s'agit vraiment de la parole de Dieu. Et quand nous considérons véritablement cette portion des Écritures, j'ai voulu parler de cela, je parlais de ce même passage véritablement à Saint-Marcel, à l'île d'Abo, le vendredi. Mais il y a eu quelque chose que je voulais véritablement, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Si Dieu n'avait pas fait grâce, vous allez apprendre que le frère Manzin est venu en Europe et puis il serait mort. Le vendredi, j'étais là. Et comme à l'habitude, parce que depuis que je suis arrivé, on a réunion chaque soir. Donc, je suis resté là, et j'étais dans la chambre toute la journée, parce que c'est ça que je reste dans la maison et je cherche la face de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas de venir se tenir là pour raconter sa vie. C'est assez important. Les gens viennent de si loin, vous voyez, se déplacent, c'est pour que véritablement leur Dieu leur parle. C'est vraiment de cela qu'il est vraiment question. Donc, il est important que, véritablement, lorsqu'il y a réunion, véritablement, quand je suis à Bandoukou, lorsqu'il y a réunion, très tôt le matin, je vais au temple et je reste là, véritablement, toute la journée. Et lorsque l'heure de la réunion arrive, je viens pour, véritablement, me laver et puis
je repars avec les enfants. C'est comme ça, depuis que je suis au service de Dieu, que j'ai toujours véritablement marché. Donc je reste là dans le jeûne et dans la prière, devant vraiment la face de Dieu. Parce que, véritablement, bien mes frères, je disais à mon précieux frère, je ne vous ai pas raconté ça, j'ai eu une enfance un peu difficile. Pourquoi? Parce que quand je suis né, j'étais vraiment dans une famille assez pauvre. Et je n'avais pas eu la possibilité d'avoir une chaussure comme les enfants de mon âge. J'étais allé à l'école primaire pendant 5 ans. C'est quand j'étais au CM1 que pour la première fois, mon papa allait m'acheter une chaussure. Et vous savez quelle chaussure? Je le disais à mon frère. Il y a les pneus là, vous connaissez les pneus, non? C'est chez nous, on fabrique des chaussures à base de pneus. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et c'est ça, mon papa allait payer pour la première fois pour me donner. Il a acheté ça à 200 francs. Mais le jour où j'ai eu la chaussure, tellement j'avais envie de porter une chaussure, je ne portais plus la chaussure. Donc, je lave très bien la chaussure. Et je mets ça à mon chevet. Vous comprenez bien? Donc, si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas par moi. Mais c'est Dieu qui aura tout fait. Parce que souvent, j'ai demandé, j'implorais la grâce de Dieu pour que Dieu m'aide à ne jamais oublier d'où il m'a tiré. Parce que souvent, quand vous oubliez cela, frère, l'orgueil commence à monter en vous. Vous pensez que vous êtes tellement important. Vous êtes incontournable. Mais tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Si je me tiens là aujourd'hui en train de vous parler, c'est Dieu qui l'a voulu. Sinon l'Europe, moi je ne serais jamais venu ici. Est-ce que vous comprenez bien? Donc le jour où vous oubliez cela, frère, vous passez entre les mains de l'ennemi. Et ça revient vraiment. Donc, j'étais là toute la journée en train de prier. La chère m'a dit, mais tu ne prends pas quelque chose. Il dit, mais depuis que tu es venu, tu ne prends rien. J'ai dit, non, ça va, ma belle, mes soeurs. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc, j'étais là, il n'y avait vraiment rien. Comme je savais que le lendemain, très tôt, je viendrai avec mon frère Pascal. Donc, j'ai même arrangé véritablement les affaires. Il n'y avait vraiment rien. Mais quand il était véritablement, on commençait à 19h30. Donc, je suis allé me laver et tout. Et puis, j'étais là. À 19h, comme on appelle 20, frère, j'ai piqué un malaise. C'est comme si on prenait une pince et puis mes intestins, on était en train de tourner, frère. Donc, à un moment donné, je ne pouvais que m'étendre sur le lit. Je me suis étendu, je me suis habillé, j'avais pris ma Bible, je me suis étendu, j'ai dit, j'ai imploré la grâce du Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, je ne vais pas mourir ici quand même. Et j'ai fait l'effort, je suis sorti, je suis venu m'asseoir là, le frère était déjà là, en train de prier, donc je suis venu m'asseoir là, et puis j'étais là, en train de prier le Seigneur. Après un moment donné, j'ai dit, bon, peut-être qu'il faut aller dans les toilettes, je suis allé, ça n'a vraiment rien changé. Et tout le temps, au moins, on était en train de chanter, mon frère Yvan était en train de chanter, frère, j'étais en train de mourir, je transpirais. Il y a quelque chose qui me dit, il faut dire à frère Pascal que tu ne pourras pas prêcher ce soir. Bon, donc, va dormir. Frère, je ne savais quoi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais j'implorais la grâce du Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, si tu m'as envoyé ici, ce n'est pas pour venir mourir ici. Démontre que tu n'as pas changé. Quand on crie à toi, tu entends. Quand un malheureux t'implore, tu le secours. Et j'étais en train de prier. Frère, je vivais la scène. Le frère était là, personne ne savait ce qui se passait. Je faisais l'effort. C'est pourquoi, quand il y a des difficultés, ne pensez pas que c'est chose facile. Hein? Il faut mettre ta foi en jeu. Amen. Je suis resté. Apparemment, quand mais il sentait que je n'étais pas dans ma peau comme d'habitude, j'avais fermé les yeux comme ça, la sueur. Alors que vraiment, le frère avait mis la climatisation, il y avait même, ce jour-là, ils ont mis encore un ventilateur. Mais la sueur, je prenais le mouchoir, mais je faisais l'effort de chanter quand même. Mais ma voix, à peine la voix sortait. Mais je m'accrochais. J'ai dit, mais à un moment donné, j'étais couvré comme ça. Je ne pouvais pas me redresser. J'ai dit, mais comment, si le frère me dit, viens prêcher, comment je vais me tenir debout pour aller prêcher? Ça, je ne sais pas comment je vais faire. Mais Seigneur, je compte sur toi. Frère, c'est là que j'ai vu que Dieu est au milieu de nous. Amen. Dieu n'a pas besoin du nombre. Hein? Amen. Non. Amen. C'est ce que souvent, aujourd'hui, les gens pensent que c'est la foule. Non.
C'est l'impression, quand il y a la foule, c'est ça, Dieu est là. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu est là où se trouvent véritablement des cœurs sincères. Que Dieu nous aide à comprendre. Frère, mais j'ai senti la présence. La manière dont notre frère Yvan conduisait les cantiques, je sentais que c'était vraiment assez particulier. Et quand il a fini, notre frère Pascal est venu. Et j'ai dit, mais Seigneur, aide ton serviteur à prier pour moi. Et puis j'étais là, le frère a prié plus que d'habitude. Lui ne s'en rendait pas compte. Mais plus il priait, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. Mais la douleur était intense. Jusqu'à ce qu'un moment, le frère a fini. Il dit, bien-aimé, frère, j'ai fait comme ça. Et puis j'ai serré sa main. Je me suis tenu là et puis je me suis appuyé comme ça. Dès que je me suis appuyé comme ça, je savais que je ne pouvais pas tomber. Donc j'étais là comme ça, dans un premier temps, et puis j'observais. J'ai commencé à prier le Seigneur. Et j'ai lu cette portion des Écritures. Parce que ce que j'ai senti, c'est que l'ennemi ne voulait pas que j'apporte cette parole-là. Que Dieu nous aide à comprendre. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à parler, frère, la chose a disparu. Mais notre Dieu, il est vraiment particulier. Si vous avez un besoin, parlez-lui. Mais tenez-vous dans la foi. Quand on parle de la foi, frère, ce n'est pas que quand vous allez crier, ça sera comme de la magie. Non, non, non. Mais la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça dit que Dieu a dit que par même plus, vous êtes guéri. Mais au fur et à mesure que tu pries, la douleur est intense. Mais toi, tu crois que tu es guéri. Tu demeures ferme. Et c'est en ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu. Frère, je voyais la mort. J'ai dit, mais ma femme, mes enfants. J'ai dit, mais. Et puis je vois, j'ai dit, mais tous ces habits que j'ai emportés, mais ça sert à quoi? Frère, plus rien ne m'intéressait. Quand je partais prêcher, même pour porter ma chaussure, frère, j'avais de la peine. Les chaussures, je les ai laissées. Demandez à frère Pascal, c'est pieds nus que je suis venu là lâcher. Parce que c'était devenu comme un fardeau à mes pieds. Quand Dieu nous accorde la grâce, on pense que c'est la veste. On est en veste comme ça. Et puis, chez nous là-bas, tu vois les gens ils, dans la chaleur comme ça, ils sont en veste et puis ils marchent comme ça. Parce qu'ils se croient tellement importants. Que Dieu nous accorde la grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'aller et de venir. De nous lever le matin, de voir le jour et de pouvoir voir le soleil se coucher. Donc nous devons considérer cette grâce-là. Cet homme, vous le connaissez, il s'agit de David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Apparemment, vous connaissez bien ce passage. Mais écoutez-moi attentivement ce matin. Il dit, l'Éternel est mon berger. Frère, qu'est-ce qui m'a poussé à parler de ce sujet? Parce que toute la journée, j'étais dans la chambre et puis j'avais ma tablette. Donc, il y a quelque chose qui m'a conduit à essayer d'aller dans plusieurs assemblées. Je suis allé sur Internet en Hollande, je suis allé à Jeffersonville, je suis allé au Congo, dans beaucoup de coins, même à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis j'ai pris des cultes tout entiers et j'ai essayé de réécouter. Frère, mais il y a des choses vraiment étonnantes sur la terre. Je ne parle pas des catholiques. Je ne parle pas des protestants. Je parle de ceux qui disent avoir reçu la lumière au temps du soir. Vous m'écoutez attentivement. J'ai vu un prédicateur en train de prêcher quelque part. Et puis avant de prêcher, il a la photo de frère Branham. Et il brandissait la photo comme ça. En prêchant, il dit, vous voyez. Et puis les gens crient, les gens sont en liesse. Ils crient, amen, frère, des cris. Il monte. C'est lui qu'on doit suivre. Vous voyez? J'ai une photo qui est dans mon appareil ici. Je crois que j'ai envoyé ça à certains frères ici. Vous avez eu l'occasion de voir? Dans une église de ce message, les gens ont fait un grand poster de frère Branham avec la colonne de feu sur sa tête. Donc quand vous arrivez, vous vous prosternez comme les musulmans le font devant la photo. Vous suivez attentivement. Mais un jour, tout ce monde a cru cette parole. C'est la vérité, frère. Vous rencontrez aujourd'hui des frères. Vous ne les reconnaissez plus. C'est-à-dire, alors que nous sommes venus ici, Dieu nous a rassemblés. À un moment donné, vous allez voir qu'il y a des frères que vous ne reconnaissez plus. Des comportements bizarres vont apparaître. Je ne sais pas si vous suivez attentivement. Amen. Vous rencontrez des soeurs, ils deviennent bizarres. Vous arrivez quelque part, les églises deviennent bizarres. J'ai vu quelque part, on dit que le pasteur était en train de faire le mariage de sa 10e femme. Et la soeur était habillée comme ça. On dit, bon, l'époux, tu dois tourner 7 fois autour de ton époux. Et il y a un monsieur qui était là, qui était en train de chronométrer. La soeur, elle fait comme ça. Elle tourne une fois. Elle tourne, et puis 7 fois. Et puis ils ont commencé à applaudir. Vous comprenez? Il dit, mais le Dieu que nous adorons, et le prédicateur prêchait, il est polygame. L'Église dans Matthieu chapitre 25. Il a 10 femmes, 10 vierges. Les gens disent amen. Frère, vous m'écoutez?
Amen.
Mais pourquoi tout ceci est arrivé? Des sœurs qui sont devenues bizarres. Des frères qui sont devenus bizarres. Qui ont des positions bizarres. Vous comprenez bien? Des églises qui sont devenues bizarres. Pourquoi tout cela est arrivé? Mais parce que nous avons manqué de savoir qu'il y a un berger.
Amen.
C'est quoi il dit? L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qu'un berger? Un berger, c'est celui-là qui conduit les brebis. Donc, c'est quoi il dit? Il me conduit. Voilà les caractéristiques d'un... Quand un berger est là, il doit conduire. Il dit, il me conduit. Il me dirige. C'est pas si vous avez entendu. Donc, le berger dirige. Le berger conduit. C'est ça, sa responsabilité. C'est de diriger et de conduire. Donc, quand le message est apparu, vous suivez attentivement, non? Il y en a qui ont pensé que c'est Branham. Vous m'écoutez attentivement. Il faut prêcher Branham. Il faut parler de Branham. Il y en a qui disent, non, vous ne croyez pas le message. Ce n'est pas le message que vous croyez. Il dit, oui, voilà, frère Branham a dit. Frère Branham a dit ici. Frère Branham a dit, il dit, frère Branham a dit, vous allez voir. Un David avait plusieurs femmes. Que Dieu nous accorde la grâce. Et ils prennent les déclarations de frère Branham pour tordre le sens et véritablement en faire des doctrines. Mais dès cet instant-là, qui te dirige? Mais David a dit ici, l'Éternel est mon berger. Avant que David ne vienne, nous allons arriver tout à l'heure. J'ai prié pour que Dieu nous accorde là. Avant que David ne vienne, il y avait Abraham qui était déjà passé. Mais il n'a pas dit, Abraham me dirige.
Amen.
Non. Mais il dit l'Éternel. Donc quand véritablement cette grâce a été faite à cet homme, sur cette terre des vivants. Suivez bien attentivement. Regardez dans le psaume 27 un peu plus. Le psaume, je crois, 27. Vous voyez sur cette terre. Regardez bien. Le psaume 27, suivez-le attentivement. Verset 13, c'est David toujours qui parle. Il dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté, de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, donc marchant sur cette terre, si la possibilité n'avait pas été donnée à cet homme de voir la bonté de l'Éternel, il aurait vécu en vain. » Donc, c'est une grâce que cet homme a reçue. C'est une grâce que nous avons reçue de recevoir ce message, cet évangile, cette lumière qui brille au temps du soir. Mais pour quelle raison, pour quel but Dieu a envoyé cette parole? Donc quand David, la lumière a brillé sur son chemin et que la grâce lui a été donnée de connaître quelle est la volonté de Dieu dans le temps dans lequel il vivait, il a pu comprendre que il y a quelqu'un qui doit désormais diriger sa vie.
Amen.
Et c'est qui? C'est l'Éternel.
Amen.
Dieu n'a pas envoyé la parole pour qu'on aille à l'aventure. Mais Dieu a envoyé sa parole, écoutez-moi, Dieu a envoyé sa parole pour que chacun de nous, nous soyons conduits. Nous soyons dirigés. Et que nous arrivons à bon port. C'est pourquoi vous avez l'assurance, lorsque vous voulez aller pendant à Paris, et que vous montez dans le véhicule, vous savez que vous allez tout droit à Paris. Parce que dans le véhicule, il y a une direction. Et donc, au niveau de la direction, il y a un chauffeur, il y a un conducteur qui se tient là. Tous ceux qui sont dans le véhicule, ils lui font confiance. Donc, quand la parole est venue, il y a quelqu'un qui est au volant de cette parole-là. Donc, nous montons à bord.
Amen.
Nous tous,
Amen.
Prédicateurs, tout le monde à bord.
Amen.
Et qui nous conduit? C'est l'Éternel.
Amen.
Vous suivez exactement la chose, non?
Amen.
Mais il ne s'agit pas, à un moment donné, toi-même, tu viens, et puis tu pousses le chauffeur comme ça. Et, frère, vous allez faire tonneau. À un moment donné, une fois, il y avait une dame, et vous savez, il y a des camionnettes là qu'on appelle Kia. Donc, la dame, le monsieur allait charger les tomates, et puis la dame était au volant, et à côté du chauffeur. Et donc, à un moment donné, il y a eu une situation difficile, dont le chauffeur était en train de faire les manœuvres. La dame a vu que ça ne peut pas l'arranger. Donc, elle a saisi le volant. Alors qu'elle ne s'est rien fait. Dans sa vie, elle ne s'est pas conduite. Donc, elle a saisi le volant. Le chauffeur a commencé à la taper pour qu'elle... Elle était... Parce qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Mais elle a saisi, elle a commencé à tourner. Et finalement, leur manœuvre, le véhicule a fait tonneau. Le chauffeur est mort, la dame est morte. Mais si elle était restée tranquille, vous suivez bien, non? Donc avant que Dieu n'envoie la parole, il sait pourquoi il a envoyé la parole. Ce n'est pas à nous de guider Dieu. Vous savez, quand on vient s'asseoir là, à un moment donné, quand on a lu beaucoup de brochures, on dit, moi, je connais les brochures, frère. Je connais la parole. Regardez, le premier, qui d'entre nous, le premier jour qui est venu à l'assemblée, et puis on dit, bon, on va lire dans Job. On va devant ici. On cherche. C'est pas vrai. Alors que Job n'est pas vers la fin ici. Parce qu'on ne connaissait même pas où se trouve un verset. Mais aujourd'hui, on est devenu des connaisseurs. C'est pas la vérité? Et donc, on veut, comme on est devenu des connaisseurs, on est devenu très intelligent. Chacun veut guider Dieu. C'est là que nos problèmes commencent. Au lieu de nous laisser guider par ce Dieu-là, chacun veut guider Dieu. Dans l'assemblée, les frères et les sœurs, chacun veut guider Dieu. Surtout ici, il y a droit de l'homme. Chacun connaît ses droits. Les sœurs, elles veulent guider Dieu. Le frère aussi, il dit, mais c'est moi, je suis le chef. La sœur dit, en Europe ici, il n'y a pas chef ici. On gère le foyer concomitamment. Que Dieu nous aide à comprendre. Là maintenant, les articles vont commencer à fonctionner. Vous comprenez bien ça? Et puis les droits de l'homme vont commencer à entrer en jeu. On oublie même qu'on est chrétien. Est-ce que vous suivez attentivement? On oublie qu'on est chrétien. Et on commence. Mais on a la Bible. On chante les cantiques. Mais ce n'est plus l'Éternel qui nous guide. On est baptisé, on est assis là. Mais en réalité, c'est nous-mêmes qui nous guidons. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on fait. Comme on veut, on marche comme on veut. On vit comme on veut. Regardez un croyant, frère véritable, un enfant de Dieu. N'a pas le droit de faire ce qu'il veut.
Amen.
Même quand vous pensez que la chose vous semble correcte, vous devez interroger Dieu.
Amen.
Vous devez parler à Dieu. Et Dieu vous répondra. Sinon, il n'est pas Dieu. Je vais vous montrer l'exemple tout à l'heure. Quand notre père Abraham, suivez bien attentivement, dans Genèse, au chapitre 12, vous connaissez bien le passage, on va aller rapidement là-bas. Dans Genèse, au chapitre 12, regardez attentivement ce qui est mentionné là. Genèse, au chapitre, véritablement, 12, vous suivez attentivement, un peu au verset 11, vous voyez déjà où Dieu l'appela. Et bon, on dit verset, chapitre 11, c'est à côté là, verset 26, avant de venir au chapitre véritablement 12. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nakhor et Haran. Donc voilà ceux qui étaient dans la maison de son père. Son père, c'est Terach. Et il avait lui-même, il était là, et puis il avait deux autres frères. Mais dans cette maison, regardez, au chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous suivez attentivement les choses, non? Dans le pays que moi, l'Éternel, je... Donc, Dieu, au milieu de toutes ces personnes qui étaient là, Dieu appela un homme. On aura l'occasion d'en parler cela certainement la prochaine fois. Dieu appela un homme qu'on appelle Abraham. Donc, quand Dieu l'appela, il l'a fait aller dans un endroit où il n'avait... Bon, son seul, comme on appelle, neveu qu'il avait. Après, l'autre aussi s'en est allé. Donc, Abraham était resté là. Il n'avait pas de grand-père à consulter. Il n'avait pas d'oncle à consulter. Il n'avait pas de petit frère à consulter. Est-ce que vous suivez bien? Donc, quand il était confronté à une situation, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il levait les yeux vers l'Éternel. Par exemple, sa femme était décédée. Vous connaissez l'histoire, non? Alors qu'en Égypte, l'Égypte était à côté. Les gens faisaient les momies. C'est-à-dire qu'on peut garder le corps pendant près d'un siècle. Avec les comme on appelle, les systèmes de momies. Mais Abraham n'est point allé vers les Égyptiens. Il a crié à l'Éternel. Il dit, voilà si la situation qui m'est arrivée. Que dois-je faire? L'Éternel dit, va rapidement mettre cela en terre. C'est Dieu qui lui révéla cela. Ce n'est pas d'après un conseil. Non, frère. Mais c'est ce que Dieu a mis dans son cœur qu'Abraham a exécuté. Lorsque son fils était en âge de se marier, ce n'est pas d'après un conseil d'un parent qu'il a agi, mais il a crié à Dieu. Alléluia. Quand il est de Damas, est parti. Vous n'avez pas suivi ce qu'il a dit? Il dit, Dieu de mon maître Abraham. Alléluia. Parce que Abraham l'a appelé, il dit, mets ta main sur ma cuisse. Prête serment. Amen. Donc il voyait qu'Abraham était sérieux. Ce n'était pas, le mariage, ce n'est pas la blague. Amen. Ce n'est pas des histoires. Amen. Ce n'est pas la comédie comme on voit dans le monde. Mais c'est un engagement sérieux. Amen. C'est la vérité, frère. Donc quand Abraham est parti, et comme Élisée dit Damas est parti, il a crié à ce Dieu-là. Et le Dieu d'Abraham a exaucé la prière. Et donc, vous voyez que tout ce que cet homme faisait, il n'avait aucun parent pour consulter. Mais l'Éternel était son berger. Vous voyez ce dont David était en train de parler? Donc, étant arrivé là, David, quand il était arrivé là, il a pu comprendre que Abraham n'était pas conduit par ses pensées. Mais c'était l'Éternel qui le guidait. Et il a prié pour que Dieu lui donne cette révélation. Il dit, c'est quoi? Oh, il dit, si je n'étais pas sur cette terre des vivants, de voir ta bonté. Amen. Donc, il ne s'agit pas d'être ici, d'être rassemblé là dans le message. Mais il s'agit de recevoir Amen. La révélation, Alléluia. La conduite que ces hommes ont eue de la part de Dieu. Amen. Pour que notre vie ne soit pas... Regardez bien, je vous dis une chose. On était venus à la foi, et puis on était avec des frères. Et puis un jour, un frère est venu, il dit, moi... Je vais gêner. Vous comprenez bien? Et puis, frère, il a gêné pendant 40 jours. C'est impressionnant, là. Quand il est sorti de là, il pense que le Saint-Esprit l'a rempli. Mais vous vous trompez. Le Saint-Esprit ne descend pas parce que tu as gêné. Amen. Où est-ce que c'est écrit? Alléluia. Si moi, je n'ai pas la possibilité de gêner, et que toi, tu gênes, et que tu dis, oh, moi, je gêne, mais tu perds ton temps. Tu sais pourquoi tu gênes? C'est pour tirer ta gloire, pour te faire voir des hommes. Tu sais pourquoi tu fais la chose? Où est-ce que Dieu est glorifié? Mais plus tard, son mobile sera manifesté.
Amen.
Frères et sœurs, on était là, c'est un frère, il a porté la parole. C'était lui qui nous exhortait au départ. Il est zélé, il va là, il part ici, il court à droite, frère. On le regarde, on dit, mais ça c'est un frère impressionnant, un frère merveilleux. Mais restons tranquilles, frère. Qui est son berger?
Amen.
En 90,
Alléluia.
Avec l'éclatement du bloc de l'Est, l'Union soviétique, le mouvement va arriver en Afrique, qu'on va appeler le multipartisme. Ça va souffler sur notre pays, la Côte d'Ivoire. On voit un matin le frère, il est devenu FPI. On dit, frère, il dit, ah, Jésus était un politicien, vous ne savez pas? Il prend la Bible, frère, il commence à nous faire des démonstrations. On essaie de parler, non, ça je suis convaincu à 1000%. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. Vous m'écoutez attentivement. Si l'Éternel n'est pas votre berger, demain vous serez quelque chose dans cette assemblée, on ne pourra même plus vous reconnaître. Donc il s'agit d'être là et que Dieu vous conduise. Quand il y a un problème, on n'est pas là. Moi, frère, est-ce qu'on peut faire un débat là? Quel débat? Ici, on n'est pas à l'université.
Amen.
Vous comprenez bien?
Amen.
On n'est pas dans une amphithéâtre. Non. On fait des débats. Et tout. Frère, on ne fait pas ça ici.
Amen.
Quand on était venu pour la conférence, il y a un frère qui est venu. Mon frère, venez, on va aller débattre. Hein. J'ai dit, moi, j'étais assis chez mon frère Pascal. J'étais assis là comme ça. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans les débats. Hein. J'ai pris ma Bible, j'étais assis là. Ils sont allés débattre. Je l'ai regardé. Ça ne m'intéresse pas.
Amen.
Ils sont débattus. Alors que mon frère Pascal m'observait. Que Dieu nous aide à comprendre. Je ne suis pas dans les débats. Parce que tu as une bouche, non, tu veux parler. Il faut parler. Quelqu'un vient, il parle. Laisse-le parler. Prie simplement pour lui.
Amen.
Si tu vois que ce n'est pas correct, prie pour que Dieu lui fasse grâce. Mais toi, laisse-le parler. Il n'a qu'à raconter ce qu'il veut. Parce qu'il a une bouche, non? Que Dieu nous accorde la grâce. C'est la vérité, mes bien-aimés frères. Et on est là, frère. Et ce frère, à un moment donné, il avait sa femme. Il dit, monsieur, est-ce que tu as vu même dans la Bible? Mais il y a David là, Salomon. Ils avaient beaucoup de femmes. La soeur dit, ah, donc tu veux prendre aussi? Il dit, non, c'est pas ce que j'ai dit. Faut pas dire ça aux frères. Que Dieu nous aide à comprendre. Un matin, le frère, il est parti prendre une femme musulmane. Il a abandonné la foi. Frères et sœurs, vous m'écoutez, non? Avant de mourir, il était mal, on l'a envoyé dans un CHU à Cocody, à Abidjan. La sœur était là, il dit, mais tu ne veux pas vraiment appeler les frères pour mettre de l'ordre? Il dit, non, il ne peut pas. Il y a comme quelque chose qui l'empêchait. Et puis, à un moment donné, au fur et à mesure que les jours passaient, il dit, mais je sens un feu qui est en train de me brûler. Il demande à sa femme, tu ne sens pas le feu là? La sœur dit non. Il dit, mais le feu me brûle. Tu ne vois pas le feu? Regarde le feu. Frère, il a crié comme ça jusqu'à ce qu'il meure. Un homme qui a gêné pendant 40 jours. Donc ici, il ne s'agit pas de nos émotions.
Amen.
Non, soyez sérieux, frère. Mais il s'agit de nous laisser conduire par le berger. Il y a un berger. Ce n'est pas frère Branham.
Amen. Alléluia. Amen.
Ils ont dit Branham, frère. Ce prédicateur, quand j'ai parcouru, il y a un qui a dit, voyez, frère Branham, c'est lui. On ne peut pas le remplacer. On ne peut pas le corriger. Tout ce qu'il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur.
Mais prenez dans les 10 vierges. Vous avez lu, non? Prenez dans les 10 vierges. Prenez ça à la maison.
Il dit, frère, vous voyez? Il était en train de prêcher à la chair. Il dit, vous voyez, frère, vous voyez le cavalier, le cheval, c'est le symbole de la puissance. Le blanc, c'est la pureté. Oui, donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, quand il a commencé à prêcher sur les sceaux, il fait voir que c'est l'Antichrist.
Amen.
C'est pas le même Branham qui a dit ça? Mais si c'est Branham qui te conduit, tu vas tomber dans le ravin. Vous m'écoutez attentivement. Donc, la parole que nous avons reçue, il y a une direction qui est là-dedans. Et cette direction-là, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui marcha au devant de nos pères. Il faudra que vous le rencontrez personnellement. Regardez, la dernière fois, j'étais en train de mourir. Les frères étaient là, mais personne ne savait rien faire pour moi. C'est moi seul qui viens. Donc un jour, vous allez vous retrouver quelque part où il n'y a personne. Mais si vous avez ce berger, il ne manquera jamais. Et c'est de cela qu'il est question, mes bien-aimés frères. L'Éternel est mon berger. Si toutes ces assemblées qui sont devenues bizarres, si chacun s'était laissé conduit par Dieu, est-ce que, frère, on allait constater tout ce que nous sommes en train de constater? En Afrique, là-bas, vous arrivez dans des localités. Mais où sont les lettres circulaires, hein, frère? Ça y est où? Si vous n'avez pas ça, on ne vous reçoit pas. Hein? Vous écoutez attentivement. Vous vous demandez, mais où nous sommes arrivés? Donc, on a laissé Branham. Donc, suivez bien attentivement. Là, toujours la pensée des hommes, quand ils voient véritablement Dieu. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ce n'est pas parce que Dieu, regardez bien, Dieu peut se révéler à moi, mais je ne suis pas détenteur de Dieu dans ma poche. Non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Si je vous dis ça, je vous ai trompé. Dieu est le seul détenteur de son plan. Ce qu'il veut, il le fait comme il veut. Il ne va pas vous venir vous consulter, vous demander d'être. Non. Il agit. Vous ne... Regardez dans Daniel. Regardez, je vais vous le montrer dans Daniel. C'est clairement. C'est dans Daniel, c'est dit là. Daniel au chapitre combien? Je ne sais pas si je peux trouver ce passage. Mais la chose est claire. Daniel au chapitre. Excusez-moi. Chapitre 4, je crois. Oui. Daniel chapitre 4. Verset 35. Il dit là, cette chose-là. Tous les habitants de la terre sont à ses yeux que néant. Vous suivez attentivement? Il agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à la main, à sa main, et qui lui dit, et qui lui dise, que fais-tu? Personne ne peut dire à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce que tu fais, ça ne me plaît pas. Est-ce que vous comprenez bien? C'est lui qui nous a fait sortir de la boue du péché, dans le bourbier où nous étions. C'est lui qui nous a permis d'être là aujourd'hui. D'avoir quelqu'un. Regardez, on ne connaît rien même de la pensée de Dieu. Il dit, autant les cieux sont élevés, mes pensées sont aussi au-dessus de vos pensées. Donc, ne prenez jamais vos pensées. Frère Branham a prêché une prédication. Lisez-la attentivement. Ne t'appuie jamais sur ton intelligence. Quand tu veux faire quelque chose, appuie-toi sur le secours de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, le problème, c'est que les croyants ne prient pas. Il dit, mais vous ne demandez pas. Jusqu'à ce moment, vous n'avez rien demandé. Vous avez un problème. Parlez à votre Dieu. Amen. Quand vous allez lui parler, il dira, me voici. Amen. C'est la grâce que nous avons reçue en ces derniers temps de la fin. Amen. De pouvoir être conduit exactement par le même Dieu qui a conduit nos pères. Amen. Vous voyez dans le livre de Josué, c'est juge, non? C'est là, je crois. Regardez bien, attentivement. On va aller là tout à l'heure, chercher ce passage. Ils sont venus trouver Gédéon. Frère Pascal, tu as le passage là? Je ne sais pas si j'ai en santé. Avec tout ce que Dieu avait véritablement fait par cet homme, les gens d'Israël sont venus le trouver. Il dit, toi, Gédéon, là. Vous voyez? J'ai pris pour que Dieu m'accorde la grâce de trouver ce passage. Vous connaissez bien le passage. Ils sont venus le trouver. Il dit, toi, Gédéon, règne sur nous avec tes enfants. Est-ce que vous suivez attentivement? Il dit, toi, règne sur nous avec tes enfants. Il dit, non, ce n'est pas moi qui vais régner sur vous. C'est l'Éternel. Donc, le berger de ces hommes-là, de Gédéon lui-même, pour exécuter la tâche, regardez comment il tremblait. Quand Dieu lui a dit d'aller détruire combien?
8:22, oui. Dieu te bénisse, mon frère. Je crois qu'on peut lire et puis vous allez voir. Ça doit être là. Oui, c'est là. Oui, c'est là.
Les hommes d'Israël disent à Gédéon, domine sur nous et toi et ton fils et le fils de ton fils, c'est-à-dire toute sa descendance là. Ça devient la royauté. Car tu nous as délivrés de la main de Madian. Mais est-ce que c'est Gédéon? Est-ce que c'est Gédéon?
Non, ce n'est pas Gédéon, frère.
Quand vous entendez des prédicateurs prier, on dirait qu'ils disent, je t'ordonne. Dieu, je te dis. Toi, tu dis à Dieu. Il dit, il ordonne à Dieu de faire comme lui veut. Non, Dieu fait ce qu'il veut. Donc, quand vous vous approchez de Dieu, ayez un cœur humble. Approchez-vous avec des sentiments sincères. Alléluia. C'est une réalité, mes bien-aimés frères. C'est vrai. Vous comprenez? Il dit, Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous. Et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Donc, nous devons veiller pour que le berger soit dans ma vie. C'est-à-dire, quand tu as cru la parole, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que Branham est ton berger. Est-ce que vous suivez bien? Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que c'est le pasteur qui est ton berger. Non. Mais il faudrait que partout où tu passes, on sache que tu es un berger. Amen. C'est l'Éternel. Amen. On dit, ah, lui, là, son Dieu, là. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Son Dieu, notre Dieu, c'est qui? C'est l'Éternel. Amen. C'est lui qui s'est révélé en ces temps du soir. La lumière, il a manifesté cette parole prophétique.
Regardez ce que les apôtres disent. Dans 2 Pierre chapitre 1. Regardez ce qui est dit là-bas. Dans 2 Pierre chapitre 1. Suivez attentivement. Il dit véritablement ceci. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Il dit, vous connaissez bien ces passages-là. Il dit, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique.
Qu'est-ce que la parole prophétique? C'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. En elle se trouvent les promesses de Dieu pour notre temps. C'est pourquoi nous disons que ce temps, c'est notre temps. C'est pourquoi Dieu nous a connus. Il y a un but pour lequel nous sommes en vie sur cette terre. Et ce but-là, le temps est là pour que ce but soit accompli. On aura l'occasion d'en parler certainement. Vous comprenez bien, non? Donc, cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, là, ce n'est pas la pensée de Branham. Mais la promesse, toutes les promesses que Dieu a eu à faire. Qu'est-ce qui était en train de s'accomplir avec Israël en Égypte? Mais c'était la parole qui était sortie de la bouche de Dieu. Alors qu'Abraham se tenait devant Dieu. Il dit, ta descendance après toi, après que toi tu vas mourir, ta descendance après toi, ils seront esclaves dans un pays 400. Au moment où Dieu parlait, Abraham n'avait même pas un seul fils. Mais Dieu les voyait tous déjà. Est-ce que vous suivez exactement la chose? Donc ça, c'était la parole prophétique. Elle était déjà connue de Dieu. Quand le temps est venu, Dieu a suscité un prophète. C'est qui? Moïse. Pour dire, le temps est venu où la parole doit s'accomplir. Amen. Quand vous lisez attentivement, ce qu'on ne prête pas attention, quand vous lisez attentivement, Dieu a dit, je suis descendu moi-même. Ce n'est pas Moïse. C'est vrai, on a vu Moïse qui partait. Il dit, je suis descendu moi-même pour les délivrer. Donc, qui a délivré? C'était Moïse? C'est l'Éternel. Donc, ce qu'il fallait voir, c'est que ce n'était pas Moïse qui conduisait, mais c'était l'Éternel. Est-ce que vous suivez attentivement la chose? Ce que chacun devait voir, c'était la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi, si vous faites un peu attention, Moïse a parlé, il y a eu plusieurs signes qui se sont accomplis. Toutes se sont accomplies d'ailleurs. Mais Pharaon restait endurci. Vous n'avez pas fait attention? Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Et puis, un moment donné, Dieu a fait sortir une parole. Il dit, cette nuit, moi-même, j'interviendrai. Ce n'est plus Moïse qui se tenait pour parler. J'interviendrai. Pour vous faire sortir. Mais ah ouais, auparavant, regardez. Il parle, les poux apparaissent. Il parle, l'eau se change en sang. C'était merveilleux. Mais ce n'était pas sur Moïse que le peuple devait pouvoir s'appuyer. Amen. Mais c'était sur l'Éternel. Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. Si tous ces croyants dans ce message avaient reçu la grâce de voir ce berger, frère, on n'en serait pas là aujourd'hui. Amen. Tout ce chaos dans les assemblées, des divisions, ça et là, cela, on n'en serait pas là. Quand il allait avoir quelque chose, chacun allait se mettre à genoux. Amen. Et Dieu allait parler à chacun. Amen. On allait éviter tellement de problèmes, frère. C'est vrai. Mais il y en a qui sont charnels. Ils veulent régler. Il y en a. Vous arrivez dans certaines églises, frère, j'ai regardé une vidéo. Coup de poing dans l'église. Les gens s'insultent. Les gens sont en bataille rangée. Et l'église est divisée. Lui-là est pour lui-là. Lui-là est pour lui-là. Et puis les gens sont là. Les gens pensent que c'est le Dieu de Dieu qui est en train. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. Vous voyez, on a perdu la direction. Mais quand vous avez retrouvé le berger, frère, vous n'êtes inquiété par qui que ce soit. Vous vous laissez conduire. C'est ce que j'ai dit en Côte d'Ivoire. À qui veut m'entendre. Moi, je ne cherche pas à être dans... Parce que là-bas, il y a des puissantes organisations dans le message. Quand vous avez funérailles comme ça, ils louent des cars. Et puis ils viennent. Vous comprenez bien, non? Moi, si je suis mort, si quelqu'un n'est pas venu là-bas, ça fait quoi? Moi-même, je ne suis ni là-bas. Je vous ai expliqué mon passé, non? Ces chaussures pilées, c'est ça que je portais. Ouais. Donc moi-même, si je suis mort aujourd'hui, ça change quoi l'humanité? Qui va savoir qu'il y a quelqu'un qui est parti? Que Dieu nous accorde la grâce. Je n'attends rien. Tout ce que je reçois, c'est un don de Dieu. Si tu me, je dis, si tu me fais don, gloire soit rendue à ton nom. Est-ce que vous comprenez bien? La première fois, on est allé faire le demande visa, on m'a refusé. Et puis je vois des gens pleurer. Je dis, ah, c'est à cause d'Europe là, les gens ils pleurent comme ça. Mais si tu ne vas pas là-bas, ça fait quoi? Que Dieu. Si ce n'est pas à cause de la parole ici, vous n'allez jamais voir mon pied ici. Ça ne m'intéresse pas. Je me sens à l'aise où je suis. Où Dieu m'a placé. Est-ce que vous comprenez bien, frère? C'est la vérité. Parce que je sais que c'est là-bas que Dieu m'a placé pour que je puisse le servir. Et je suis heureux de savoir que c'est là où je suis. À mon poste. Que Dieu nous aide à comprendre. Les gens, quand on leur donne le visa, ils disparaissent dans la nature. Hein? Mais quand avant-hier, je suis parti, on dit, non, toi, tu es un homme sérieux. Si tu veux maintenant, on peut te donner pour 3 ans. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous comprenez bien, non? Je n'ai pas de problème. Parce qu'ils savent que quand ils me donnent, je retourne. Vous comprenez bien ça, non? Mais il y en a qui disent, mais toi, tu as eu la chance comme ça d'aller en... Et puis tu reviens en Afrique ici. Que Dieu nous aide à comprendre. Et vous pensez qu'en Europe, là-bas, là, l'argent est collé à terre comme ça. Il y a un Nigérien qui est venu en Côte d'Ivoire. Comme on dit, il y a l'argent là-bas. Donc, le premier jour, il est venu, il marchait comme ça, et puis il a pris 5 000 francs. Ici, là, il y a l'argent, on dit, c'est la vérité. Mais après, il a commencé à comprendre que l'argent n'est pas collé sur la route. Que Dieu nous aide à comprendre. Je dis, vous pensez qu'en Europe, l'argent, ça coule comme chose. Frère, mais de la même manière, si tu ne travailles pas en Afrique, si tu ne travailles pas en Europe, tu ne vas pas gagner l'argent. Amen. C'est une réalité. Il faut travailler. En Afrique, là-bas, si tu travailles, tu peux être mieux même que quelqu'un qui est en Europe. Amen. C'est la vérité, frère. Ça dit qu'il suffit d'être là où Dieu veut que tu sois. Il est capable du néant de faire tout. Il faut avoir cette confiance en l'Éternel. Si aussi Dieu vous a permis d'être là, soyez sérieux. Amen. Travaillez sérieusement. Amen. Et vous verrez ce que Dieu fera aussi pour vous. Amen. Je ne dis pas que vous êtes ici, vous faites mal. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, frère. Mais il faut être dans l'équilibre. Amen. Donc, cette parole-là qui est venue à Moïse, Ce n'était pas Moïse qui était la pièce maîtresse. Vous suivez attentivement? Les gens veulent faire de Branham la pièce maîtresse. Quand vous êtes là, vous êtes venu à la parole, à un moment donné, l'ennemi s'empare de vous dans l'église et puis vous voulez devenir une pièce maîtresse. Votre frère Pascal, il me parlait, il dit qu'il aimait beaucoup le théâtre. Mais quand vous faites, vous connaissez le théâtre, non? Il y a un émetteur en scène. C'est lui qui écrit la pièce. Maintenant, il y a des acteurs. Ils viennent pour s'approprier la chose. Et quand ils s'approprient bien la chose, vous pensez que ça vient d'eux. Alors qu'il y a l'émetteur en scène. C'est lui qui a pensé. C'est lui qui sait l'impact que ça doit avoir sur le public. Et il écrit la scène pour que ça soit joué et que l'impact ait lieu. Donc l'émetteur en scène, c'est Dieu.
Amen.
Nous tous ici, nous sommes des acteurs.
Amen.
Donc chacun doit s'approprier.
Amen.
Quoi?
Amen.
Nos pensées?
Non.
La parole de Dieu.
Amen.
Donc quand il y a un problème, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire?
Amen.
Et puis tu t'appropries la chose.
Amen.
Tu es là et puis la scène se joue.
Amen.
C'est merveilleux.
Amen.
Mais regardez la cacophonie. Quelqu'un allait prendre jusqu'à 10 femmes. Frère, tu vas faire quoi avec tout ça? Maintenant, en Afrique, il n'y a plus de forêt. Avant, nos parents, ils faisaient ça parce qu'ils cherchaient beaucoup d'enfants pour faire, comme on appelle, l'agriculture. Il n'y avait pas des machines. Donc, c'est les enfants qui étaient la main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, le problème foncier en Afrique, c'est terrible. Tu dis, femme, tu vas faire quoi avec ça, frère? Parce que si tu veux prendre jusqu'à 4 femmes, 5 femmes, tu es obligé de venir ici. Il faut aller faire à l'Akbarou. Ceux qui font à l'Akbarou, les Mahométans. Là-bas, tu peux prendre jusqu'à 5. Donc, tu n'es pas obligé de venir dans le message pour perdre ton temps. Pour te fatiguer. Pour essayer de chercher des versets pour te justifier. Tu vas, tu portes le boubou et tu fais ce que tu veux. Puisque c'est la femme qui t'intéresse. Tu en prends comme tu veux. Quand ils ont fini comme ça, frère, l'église est devenue comme un bar. Les tables, vous voyez les bières, le whisky, dans l'église. Oh, en train de boire. Et puis les gens sont en train de chanter les cantiques. Dans message. Frère, vous n'avez jamais vu ça? Allez-y, ça y est, sur les vidéos sur Internet. Vous allez voir. On chante, on danse. Frère, tout cela sous l'étiquette du message. Mais où est la direction? Où est la boussole? Vous comprenez bien ça? C'est ça le problème. Il dit, les apôtres disent, et nous tenons. C'est Pierre qui est en train de parler. Donc, il inclut tous les apôtres dans le ministère. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Maintenant, suivez attentivement. À laquelle vous faites bien. Maintenant, il parle de qui? Au peuple maintenant.
Amen.
Il dit, vous aussi, qu'est-ce que vous faites? À laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc ici, l'attention n'est pas focalisée sur un homme, mais sur la parole que nous avons reçue. Il faut examiner pour voir. Moi-même, ce que je fais, j'examine pour voir. Parce qu'à un moment donné, je peux être conduit par mes sentiments. Et si j'évolue dans mes sentiments, j'évolue, ça va me conduire à la dérive. Tout récemment, chez nous là-bas, il y a un jour, on est arrivé quelque part, et puis il y a un frère qui a dit, mais frère, tu sais, le vin de palme. Et oui, je sais où tu vas en venir. Bon, tu sais que c'est, quand on coupe là nouvellement, c'est bien sucré. Donc, ça ne saoule pas. Il dit, ah, d'accord. Moi, mon papa, il coupait le vin de palme. Un jour, on m'a dit que ça ne saoule pas, frère. Donc, quand on s'en va, on met des canaries comme ça et puis on traverse. Donc, quand j'ai fait, je prends un peu. À un moment donné, j'ai commencé à marcher comme ça. Mon père me demande, mais pourquoi tu marches comme ça? J'ai dit, non, il n'y a rien. Il dit, il m'a chicoté. Frère. Il dit, c'est pas le vin là, tu es en train de boire. Frère, ça saoule vraiment. Que Dieu nous aide à comprendre. Le prêtre, je vous parlais d'un prêtre catholique, un roumain qui venait chez mon papa boire. Quand il vient, il dit que ce qui est sucré là, c'est ce que mon père n'a qu'à lui donner. Frère, mais à force de, quand il boit, à un moment donné, c'est moi, je l'accompagne à la mission catholique. Il est saoulé et puis il marche comme ça. Il arrive là-bas. Il ne peut pas manger, il dort. Vous comprenez, vous voyez, frère? Vin de palme. Ça a quoi à voir avec mon salut?
C'est sûr.
Mais parce que les gens, ils n'ont pas reçu le berger. Il doit te conduire.
Amen.
Tout Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Si tu n'as pas le berger frère, tu vas te détruire. Tu vas te faire du mal. Détruire tes enfants cadeaux. Vous comprenez bien, non? Alors que tu dis que tu es dans le message. Il dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous aussi vous faites bien attention. Vous faites bien de prêter attention. Il dit comme quoi? Comme une lampe. Et ouais, comme une lampe. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est ce que cette parole est venue. Nous tous, nous avons reconnu que c'est la vérité. La lumière a brillé, on est convaincus. On sait que nous, on n'est pas catholiques. Nous, on n'est pas ceci. On connaît ça. C'est bien. Mais ce n'est pas fini.
Amen.
La lampe, ça brille. Amen. Mais pourquoi les gens ne voient pas clair? Pourquoi vous voyez ça, non? Alors que la lumière est là. Il dit, regardez ce qui doit se passer. Dans un lieu obscur, nous étions dans les ténèbres. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Amen. Vous voyez, dans chacun des cœurs ici, le berger doit apparaître.
Amen.
On chante le cantique, non? Amen. Dans mon âme, un beau soleil, lui. Donc la même lumière qui a lui, que nous avons tous vu, qui a fait que nous sommes sortis, cette même lumière doit lui dans chaque cœur. Moi, prédicateur, la lumière doit lui dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez bien? Chacun dans l'église, la lumière doit lui dans notre cœur. Et quand la lumière lui comme ça, ça donne une parfaite harmonie. Nous avançons dans la direction voulue par Dieu. Vous comprenez bien, non? Donc, avant que Dieu n'envoie cette parole, il avait des desseins. Il avait des pensées. Ce sont ces choses-là qui doivent s'accomplir. Ce n'est pas nous, nos desseins, nos pensées. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a un frère qui il dit, mais je vais gêner et puis je vais devenir prophète. Ce frère-là, qui a gêné 40 jours-là, c'était son intention. Il va gêner et puis il va devenir un puissant serviteur de Dieu. La puissance se trouve dans la parole.
Amen.
Ça ne se trouve pas dans le jeûne. Le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ.
Amen.
S'il est en toi, tu seras aussi puissant.
Amen.
Est-ce que vous m'écoutez attentivement?
Amen.
Donc c'était son intention d'acheter le don de Dieu. De monnayer ça. Avec son jeûne. Il va acheter le don de Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a connu pour être prédicateur? Est-ce que Dieu t'a connu pour être pasteur? Est-ce que Dieu t'a connu pour être prophète? Frère, si Dieu ne t'a pas connu pour être ça, c'est sans maintenant. On dit des gens entraînés par leur rêverie. Lisez dans Jude. Ils ont un rêve. Vous connaissez un rêve? Quand on était petit, nous, c'est sur une natte, on dormait en Afrique. Donc, quand tu dors sur la natte, à un moment donné, tu rêves que tu es dans une maison à étage. Des choses que tu n'as jamais vues. Et puis, un matelas. Et puis, tu es là, tu es content. Et puis, tu es heureux comme ça. Ou bien, tu es dans l'avion. Alors que tu n'as jamais monté sur vélo. Donc, tu es là et puis, tu es content. Durant tout le temps que ça dure, tu es heureux. Quand tu te réveilles comme ça, tu regardes, tu es couché sur la natte là. C'est ça qu'on appelle un rêve. C'est seulement le plan, les pensées du Dieu qui vont s'accomplir.
Amen.
Tout ce que... Donc, à un moment donné, vous n'avez pas vu? Il y a eu des hommes, on appelle... Vous n'avez pas vu Napoléon? Quand on venait, on a vu Waterloo. C'est là qu'il a eu la bataille. Il voulait tendre son empire. Mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller tout ce qu'il y a là-bas? Jamais! Son rêve s'est arrêté brusquement. Il a disparu de la terre. C'est ça, les hommes, les grands conquérants, ils ont d'être. Mais nous savons que nous ne sommes pas dans des pensées d'hommes, dans des rêveries d'hommes. Mais il y a Dieu qui a son plan, son dessein qui doit s'accomplir dans cette génération. Et nous sommes venus pour que nous soyons inclus dans ce plan-là. Donc nous tenons là, chacun de nous, nous devons nous laisser conduire par ce Dieu-là. Frère, quand vous pouvez vous laisser conduire par Dieu, c'est tellement merveilleux.
Amen.
C'est là que vous allez savoir qu'il y a une paix profonde qui se trouve en Jésus-Christ.
Alléluia.
Sinon, tout le temps, vous serez troublés. Vous n'aurez jamais la paix. Alors qu'il dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne. Mais quand tu es dans tes pensées, frère, tu es tout le temps troublé parce que Dieu te montre que ce ne sont pas ses voies. Il y a une bataille. Il y a un combat. Tu dis, il faudrait que je fasse ça, frère. Non. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous voyez la destinée de ce peuple-là. Israël a manqué de quelque chose. Quand ils sont arrivés au finish, Jésus a dit, de toutes les paroles que l'Éternel a prononcées, aucune n'est restée sans effet. Tous se sont accomplis. Il n'y a aucune parole de l'Éternel. Et c'est le même dessein, le même but. Regardez là dans Isaïe, excusez-moi, je vais finir tout à l'heure. Il est presque 13h. Je vais finir tout de suite. Isaïe au chapitre 55, vous connaissez bien. Isaïe chapitre 55, vous connaissez bien ce passage. Il dit ceci, une chose qui est assez importante. Il dit, verset 9, on peut lire même à partir du verset véritablement 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amen. Donc, à un moment donné, quand vous rendez, vous pouvez vous rendre compte que les pensées que vous avez eues en vous, là, ce n'est pas des pensées de Dieu. Il faut abandonner, frère. Et puis retourner à l'Éternel. Amen. Dieu aura toujours compassion.
Amen.
Mais il y a une chose, l'orgueil, frère. On ne veut pas s'humilier. Frère, ça devient dangereux. Que Dieu nous aide à comprendre. J'ai vu ce prédicateur-là. Il allait dire, mais il allait voir un autre prédicateur. Il dit, mais c'est écrit. Hein? Un prédicateur peut avoir plusieurs femmes autant qu'il veut. Il en désire. Et l'autre dit, je ne crois pas. Il dit, je te maudis au nom de Jésus-Christ. C'est la vérité, frère. Mais j'étais dépassé. Je dis, mais où on se trouve? C'est dans ce message. Il s'appuie, il dit que si vous arrivez quelque part et que les gens ne vous laisseront pas, il dit secouer la poussière. Donc il dit, nous, au nom de Jésus-Christ, nous te maudissons. Tu ne crois pas le message. Frère, que Dieu nous accorde sa grâce. Ça fait rire, mais c'est la vérité, frère. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Même dans le foyer. Il peut arriver à un moment donné, vous vous enduisissez dans une position. Mais Dieu va vous parler quand même. Quand vous vous rendez compte que la position que vous avez prise n'est pas la bonne, humiliez-vous. Ça ne fait absolument rien. Moi, quand je me trompe avec ma femme, je me mets à genoux devant elle. Je demande pardon. Parce que, regarde, nous tous qui sommes ici, il n'y a pas quelqu'un qui se trompe pas. Non, il n'y en a pas. Si vous êtes trompé, reconnaissez-le. On dit, non, moi, tu sais que je suis le chef, non? Chef de quoi? Il n'y a pas à faire de chef, il y a ici. Le chef ici, c'est Christ. Mais il t'a mis là, c'est pour qu'il y ait une parfaite. Mais si tu veux prendre ça pour faire un commandement militaire, ça ne peut pas aller dans le foyer. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Mais souvent aussi, de la soeur, il peut avoir de bonnes pensées qui vont sortir. Donc si tu fais affaire des commandements militaires, ça ne peut pas aller. C'est ce qui fait que dans l'armée, souvent, ça ne va pas. Souvent, les soldats, ils ont des pensées aussi. Mais le soldat ne doit pas parler. C'est le capitaine qui connaît tout. Alors que ce n'est pas vrai. Que Dieu nous accorde sa grâce. C'est une réalité. Vous écoutez? Il dit, et véritablement nous continuons, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Regardez aujourd'hui, tous ceux qui ont des difficultés dans cette marche, mais c'est parce qu'ils ont pris leurs pensées pour les pensées de Dieu. Et quand vous les suivez, vous allez vous rendre compte que vous allez tomber dans une situation un peu difficile.
Donc, il y a des frères, par exemple, qui sortent. Mais quand ils s'en vont, vous voyez que ça ne va pas. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc, tu te rends compte que tu as pris tes pensées pour les pensées de Dieu. Mais qu'est-ce qui t'empêche de t'humilier? Est-ce que vous comprenez un peu la chose? De vous dire que moi, je me suis trompé, ça fait quoi? Ça fait rien. Mais l'homme n'est pas prêt à accepter ça. On s'endurcit. On s'endurcit. Frère, cette parole que nous avons reçue, ce n'est pas ainsi que nous avons connu Christ. Vous continuez, vous comprenez ce que j'ai dit? Quand mes pensées ne sont pas vos pensées, voyez, et mes voix ne sont pas vos voix, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Suivez bien. Qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est ce que je disais aux frères en Côte d'Ivoire. Quand le message est arrivé là-bas, il y en a qui ont pensé que, comme ils avaient vu les organisations religieuses là, telles que les assemblées de Dieu, les pentecôtes, c'est-à-dire les premiers qui étaient dedans, ils sont devenus comme des gourous, des patrons. Donc, ils se sont précipités dans ce message, comme ça venait d'arriver, et puis ils vont, mais frère, longtemps les gens ont régné. Dieu a laissé faire. Mais quand le temps de Dieu est venu, vous comprenez bien, non? Le Seigneur a éclairé ses enfants. Est-ce que vous comprenez bien? Et maintenant, nous avons, j'ai dit à un frère, nous avons rencontré le berger. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu grand, on ne peut pas prendre bonbon pour me tromper. Vous comprenez bien, non? Quand l'enfant est là, il est petit, si vous voulez sortir, vous prenez des bonbons. Quand il voit les bonbons nets, il se calme. Mais quand il va commencer à grandir, est-ce que ça va marcher? Ça ne peut plus marcher. Parce que maintenant, il est devenu adulte. Est-ce que vous comprenez? Les choses qu'il n'avait pas l'habitude d'appréhender, maintenant, il appréhende ces choses-là. Donc, quand nous venons au Seigneur, c'est exactement la même chose. Et donc, les gens dans ce message, à un moment donné, ils ont pensé qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Regardez, on a traversé toutes ces situations-là. Sous toutes ces zones de ténèbres-là. On a traversé, on nous a fait rentrer ici, on est sorti ici, on est sorti là. On pensait que c'était Dieu qui était dedans. Mais quand le temps arrive, Dieu lui-même, ses pensées, pourquoi il a envoyé la parole là? C'est pour qu'il y ait de nouveaux chefs sur nous. Il y a un frère qui est arrivé un jour. Il dit, mais est-ce que vous êtes connecté là-bas là? J'ai dit, c'est où? Est-ce que vous comprenez bien? Ouais, les gens, leur objectif, c'est que tout le monde et que les prédicateurs s'asseyent et que tout le monde soit connecté à un homme. Est-ce que Dieu sait dans cette pensée qu'il envoie sa parole? Non! Mais il a laissé faire un temps. Nous tous, on était dedans. Mais c'est parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu clarifie pourquoi il a envoyé sa parole. Et ses brebis à lui font quoi? Ils le suivent. Ceux qui veulent, ils restent dedans. Mais lui, ses brebis, ils vont le suivre. Parce qu'il est le bon berger. Donc, sachez que nous avons un bon berger. En envoyant cette parole, mais c'est parce qu'il est le bon berger. Donc, vous devez l'expérimenter. Celui-là qui est ton berger. Ce n'est pas moi. Hein? Il y a un berger qui est là. Il faut le rencontrer, il faut le voir. Et c'est lui qui te guidera. Même un jour, quand tu seras dans la tombe, il sera avec toi. Il va te, au moins, les gens vont voir que tu es tombé. Il va te faire passer par cet endroit-là pour te conduire tout droit à la maison. C'est un passage. C'est pas comme tu es. On dit, il est mort. Mais c'est vrai, on ne voit pas. Mais la personne a changé d'endroit. Tout à l'heure, notre frère Pascal va prendre le chemin du retour. Si on va dire qu'il est mort. On le verra plus à Bruxelles ici. Mais nous savons que frère Pascal est là. C'est une réalité, frère. Donc, nous avons un bon berger. Il est dans ce message-là. Il doit conduire chacun de nous à bon port. Pour que ce pourquoi il nous a connus, parce que j'aurai l'occasion de parler de cela, le but dans lequel Dieu nous a connus, il nous a permis d'exister sur cette terre. Ce but doit être atteint. Afin que pleinement, le monde ait l'occasion de savoir que notre Dieu, il est le véritable Dieu.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Il est le véritable Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui soit semblable à lui. La terre que vous voyez, c'est à cause de nous que Dieu a créé la terre.
Amen.
C'est une réalité, mes bien-aimés frères. C'est à cause de nous, principalement les croyants, que la terre existe, Bruxelles ici, là. C'est à cause de nous que Dieu a donné Bruxelles. Ce n'est pas à cause des politiciens. Mais pour l'instant, la chose semble comme une chose qu'on ne voit pas tellement bien. Mais Dieu est très patient. Il observe les politiciens. Ils se succèdent. Ils s'en vont. Les maires s'en vont. Les députés passent. Quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils pensent que c'est les décideurs. On dit non, le Parlement européen s'est réuni. Et puis ils pensent que c'est eux qui décident de la vie. Celui qui décide de notre vie, c'est l'Éternel.
Amen.
Vous ne devez jamais confier votre sort entre les mains d'un homme, mais entre les mains de votre berger. Et ce message est venu pour vous faire rencontrer votre berger. C'est qui? C'est l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Donc, il est, frère, ça semble être simple, hein, mais c'est capital. C'est sérieux. J'étais vraiment bouleversé dans mon âme de voir cet homme s'agenouiller devant la photo de frère Branham. Quand j'étais allé à Kigali, et puis j'étais allé saluer un frère qui travaille à la Banque centrale du Rwanda. Donc au moins on était chez lui, et puis ils ont fait passer une émission à la télévision. C'était des frères dans ce message. Ils sont là à la télévision, et puis ils disaient aux journalistes, Vous voyez, Dieu a parlé dans notre génération. Voilà. Nous ne sommes pas une génération. Ils ont commencé à parler. Il dit, voilà la photo de frère Branham. Voilà. Frère, il a pris son portable. Il dit, tu vois. Ils n'ont pas de Bible avec eux. Et le journaliste qui était là, c'était un païen. Suivez, excusez-moi. Et il a posé une question. Il dit, mais tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est vrai. Il y a d'autres aussi qui peuvent venir ici avec des images aussi. Pour brandir qu'il y a des miracles aussi parmi eux. Mais comme vous dites, vous êtes chrétien là. Est-ce que vous pouvez me montrer dans la Bible ce que vous croyez là qui fait que c'est différent des autres? Où est la question que le monsieur a posée? Frère, il n'avait pas de Bible. Que Dieu nous a compris. Ils sont là, ils ont pris. Il dit, mais tu ne crois, tu es un incrédule, tu ne crois pas. Voilà les photos, ça y est là. Il dit, je ne parle pas de photos. Les gens de Bouddha peuvent envoyer aussi des photos de Bouddha. Est-ce que vous comprenez bien? Mais j'ai dit, puisqu'on parle de Dieu, c'est la Bible qui parle de Dieu. Prenez-moi la Bible et puis montrez-moi dans la Bible. Ils sont restés là, maudits le monsieur. Vous voyez la chose, mon frère? Que Dieu nous aide à comprendre. Parce qu'ils n'ont pas rencontré le berger. Ils sont à la déroute. Mais la grâce que nous avons reçue, comme nos pères autrefois, suivez attentivement, c'est que l'étoile du matin doit s'élever dans chaque cœur. Frère, si l'étoile du matin s'élève dans votre cœur, personne ne pourra vous tromper. Parce qu'il y a beaucoup de politiciens parmi nous. Hein. Il y en a beaucoup. Ils font la politique religieuse. Vous les voyez comme ça, ils viennent, oh, frère, viens te venir. C'est un politicien. Si tu n'as pas eu le berger, il va te faire couler. Au moins, tu vas te rendre compte que tu es parti très loin du Seigneur. Mais si tu as le berger, personne ne peut t'aider. C'est pourquoi, quand vous lisez, il dit, vous êtes retourné vers le pasteur. C'est pas ce qui est écrit. C'est vrai qu'il y a des pasteurs là, mais le véritable pasteur, c'est qui? C'est lui. Et le gardien de vos âmes. Donc, en nous amenant, ce n'est pas pour que nous soyons laissés à l'aventure. Mais au milieu du désert, il y avait une direction qui était donnée. C'était la colonne de feu. Ils avaient tous la grâce de voir que ce n'était pas Josué, Amen. Ni Moïse. On nous a fait croire qu'il y a des Josué dans notre temps. Au Nigeria, là-bas, il y a un autre qui est apparu, il dit les Josué. Il y a un qui est là-bas. J'ai un documentaire comme ça, un pile de documents sur lui. Un jour, il y a un frère qui est allé au Togo, il m'a envoyé. Il dit, il est arrivé là-bas, les frères disent que voilà le Josué de notre temps. En Afrique, là-bas, il y en a plein, frère. Si vous voulez les suivre, vous en aurez plein. Mais la grâce que nous avons reçue, c'est de savoir qu'il y a un berger. Frère, aussi longtemps que nous demeurons dans l'humilité, nous sommes sujets à nous tromper, mais sa responsabilité, c'est de nous ramener Amen. Dans le droit chemin. Il dit quoi? Il dit, sa houlette et son bâton me rassurent. Quand nous nous trompons, il nous tape comme ça. Et puis il nous ramène dans le rang. Vous comprenez bien, non? Tu sens que le Seigneur n'est pas content de toi. Tu reviens, Amen. Véritablement. Amen. Ouais, Amen. Parce qu'il y a cette nature. Et il faudrait que cette nature de brebis aussi soit en nous. Amen. Sans cela, vous n'allez jamais le voir. Vous comprenez bien, non? Il nous conduit. C'est quoi la brebis, cette nature humble? L'humilité. Frère, où je sens que je ne suis rien par rapport à mon frère, par rapport à ma soeur. Cette humilité est vraie, vraie. Ce frère-là, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a gêné pendant qu'il... Il pensait que l'humilité, c'est le fait de porter des haillons. Non, non. Donc, vous le voyez là, il prend des haillons comme ça, des habits déchirés, et puis il est là, et puis il chante. Il fait comme ça. On dit, frère, mais il faut bien t'habiller. Quand on va t'avoir, tu vas penser que tu es un féticheur. Parce que les féticheurs, ils aiment les habits sales. C'est parce que vous avez fait attention. Les habits, ils n'ont jamais lavé. Quand il finit net, il met là. Prochainement, il porte pour que les démons puissent rentrer en lui. Mais un enfant de Dieu, tes habits, tu dois les repasser. Même si tu as une seule tenue, il ne faut pas faire ça. Mais tu laves la nuit. Et puis, ça sèche le matin. Tu repasses ta bien. Tu portes ça. Propre. Quand tu passes quelque part, on sait que tu es un enfant de Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce. L'humilité, ce n'est pas cela, frère. Mais j'ai dit aussi, il y en a aussi, ils veulent toujours être en cravate pour qu'on les voit. Bon, ça dépend de vous. Hein. Bon, peut-être ici, c'est un climat tempéré, ça va. Mais chez nous, là-bas, il fait très chaud. Si tu veux t'amuser, tu vas cuire. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est une réalité, frère. Vous voyez les gens sous le soleil comme ça, frère. Moi, j'ai transmis tellement. Sous le soleil, là, ils sont en cravate avec veste, frère. Mais tout ça, c'est pour faire quoi? Que le Seigneur nous accorde la grâce. Amen. Donc l'humilité, c'est la nature qui est en Christ. Amen. Qui fait que tu te regardes comme n'étant rien. Amen. Si cette nature n'est pas dans un foyer, ce foyer ne peut pas subsister. Là, je vous donne un exemple. Je disais à des frères qui devaient se marier. Je dis, vous voyez, frère, quand vous allez vous marier, aujourd'hui tout le monde rit, mais sachez que les choses ne vont pas aller comme sur des roulettes. Le mariage, c'est quoi? Ça dit ma femme que moi j'ai mariée là. Depuis que je l'ai mariée, je l'étudie pour connaître quels sont ses points faibles, ses faiblesses. Parce que tout homme a des faiblesses. Donc, quand tu as connu ses faiblesses, là, puisqu'ils ont dit une épouse, il y a un tailleur, tu l'envoies là-bas pour qu'il fasse en sorte que la femme là épouse ta forme. Donc, tu t'en vas plaider devant le Seigneur. Tu dis, voici les faiblesses que j'ai constatées, les insuffisances que j'ai constatées à ma femme. Aide-moi! Je ne peux pas mettre ces choses-là en elle. Est-ce que nous, on a moyen de mettre ces choses qui manquent à notre femme? On ne peut pas. Mais lui, c'est lui qui l'a créé. Amen. Les sentiments qui étaient en Christ là, ça, c'est lui qui donne. Amen. Donc si tu demandes, il va mettre ça dans ta femme. Nous, on peut lui acheter des paires de chaussures, on peut acheter des lunettes. Mais la bonté, la douceur, je ne peux pas mettre ça dans ma femme. Il y a quelqu'un qui peut mettre. Donc elle aussi, elle est là. Elle est en train de m'observer. Mon mari, là, il a un tempérament qui est comme ça. Donc, ça ne peut pas aller. Hein. Donc, elle aussi, elle m'amène chez lui. Amen. Façonne mon mari. C'est ça le mariage.
Alléluia.
Mais un jour, il sort son calepin. Bon, hé, soeur, viens t'asseoir ici. L'année dernière, regarde, au mois de janvier, tu as fait ça. Décembre, tu as fait ça. Bon, la conclusion. Vous-même, vous connaissez la conclusion. Est-ce que c'est ça le mariage? Ce n'est pas ça un foyer. C'est ça la vérité. C'est ça l'humilité. se tenir dans la brèche pour l'autre.
Amen.
C'est ça l'humilité.
Alléluia.
Il s'est tenu dans la brèche. Là où il n'avait pas descendu, il est descendu là-bas.
Amen.
Pour nous faire sortir de là.
Alléluia.
Est-ce que nous sommes prêts à faire ça?
Amen.
On brandit nos pensées.
Amen.
On brandit nos idées. Ce n'est pas ça ici. En Christ,
Amen.
Les choses doivent changer.
Amen.
Que Dieu nous bénisse.
Amen. Amen.